propose de passer à la troisième partie avec Renaud et Théophile pour parler du consumérisme et du conditionnement des imaginaires par la société de consommation, échanger sur le fait que la croissance aujourd'hui ne fait plus le bonheur et synonyme d'explosion des inégalités et du mal-être. Pour présenter nos deux intervenants, donc Renaud Anzieux est décroissant depuis 2014 et suite à différents changements de conscience, il a recouvert l'écologie et la décroissance à travers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Et il a l'élan de partager ce sujet qui était encore tabou il y a quelques années, même dans certains milieux écolos. Et donc, il aime à partager qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait vivre avec peu. Et aujourd'hui, cela lui apporte légèreté et sécurité. Et Théophile Yenhardt, qui est formé comme chercheur en sciences environnementales et qui travaille dans la vulgarisation et l'éducation à l'environnement. Tout à l'heure, Philippe a abordé le consumérisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Donc, je vais commencer juste par un petit terme belge, désolé. Au lieu de dire « truc », il y a un mot qui est assez juste. Ici, on dit « brol ». Donc, le monde croule sous les brols que l'on range dans les tiroirs, dans les garages, dans les centres commerciaux. Ces brols qui sont jetés, qui s'échouent sur les côtes et bien sûr qui causent de nombreux types de pollution. En 2020, une super étude dans Nature montre que la masse issue de l'accumulation de tout ce que l'on a manufacturé surpasse l'entièreté de la masse de la vie sur Terre. Ces brols sont-elles donc un symptôme de quelque chose de plus gros et organisé ? Cette accumulation ne serait pas justement un symptôme du consumérisme et donc du productivisme ? Le consumérisme a plusieurs définitions selon des approches économiques, sociales, politiques ou voire anti-consommation, qui sont souvent en conflit les unes avec les autres. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est devenue une fibre de la fabrique de la société moderne sur comment et pourquoi nous consommons. Clairement, selon les experts qui travaillent sur ces sujets, le consumérisme est devenu la religion du XXe et du XXIe siècle qui va jusqu'à être la solution à tous nos maux et nous permettre d'échapper aux réalités banales de nos vies quotidiennes. Cela a par exemple aidé la transformation des citoyens à devenir des acheteurs. Attention, il ne faut pas confondre avec la consommation qui est l'acte d'achat. Donc en effet, si la consommation est un acte, le consumérisme est un mode. Le consumérisme est donc l'expression de la manifestation culturelle de l'acte omniprésent de l'acte de consommation. Certains suggèrent que le consumérisme ne doit pas ou ne peut pas être condamné moralement, mais qu'il doit plutôt être considéré de manière systématique comme une arène au sein de laquelle les vies sociales sont activement organisées. Mais l'idée du consumérisme nourrit directement les travers de la surconsommation qui elle-même est planifiée à travers différents outils.
Par quels moyens est-ce que la surconsommation elle se déroule aussi durablement ?
On va parler un petit peu d'obsolescence. Donc il existe différents types d'obsolescence qui servent de pivot au comportement consumériste. On connaît tous cette obsolescence technique matérielle qui est dite programmée, comme les technologies du numérique où l'entreprise va manufacturer un produit pour que le produit ne marche plus avant son espérance de vie réelle. Et cela se produit absolument partout, dans les industries, les machines, les robots, les instruments de contrôle. Il y a un exemple assez marrant historique où, pendant le développement justement de cette technologie de l'ampoule, les manufacturiers ont justement diminué de moitié l'espérance de vie des ampoules, passant de plus de 2000 heures à 1000 heures pour justement pousser les achats chez les consommateurs. Mais il y a beaucoup d'autres types d'obsolescence qui peuvent avoir des impacts bien plus désastreux. L'obsolescence perçue ou des désirs, qui est le lien direct avec le consumérisme, où les sociétés sortent de nouvelles lignes de produits ayant étudié les comportements des consommateurs, qui rend les anciens produits has-been, vieux, le but étant de faire croire que l'objet acheté récemment devient une antiquité. On retrouve ça dans la mode, les voitures, les technologies. Ces produits sont une représentation du statut social. On a l'obsolescence réciproque ou systémique entre software et hardware. Pour faire simple, la dernière mise à jour de notre ordinateur ne supporte pas l'appareil en question. Encore plus intéressant, nous avons l'obsolescence des lieux. Par exemple, la grande distribution crée de nouvelles routes qui modifient les temps de trajet et provoquent donc des décalages. On a, non loin de nous, une ouverture d'un grand multiplex qui attire les foules et vide les petits commerces, les supermarchés, voire même les hypermarchés, le tout faisant augmenter les surfaces artificialisées. Un bel exemple de société qui intègre non seulement dans son business plan, mais dans l'entièreté de ses chaînes de valeur, plusieurs types d'obsolescence, et bien sûr Apple, en utilisant autant l'obsolescence réciproque des désirs, la technique, et donc hardware, software.
Tout à l'heure, tu évoquais l'image de la quantité de matériaux construits par l'humain qui dépasse la biomasse de la Terre. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de plus en termes de consommation ?
On va juste sortir du mot consommation pour aller directement sur le terme surconsommation et sur l'impact sur le vivant. Donc déjà, il faut définir ce que c'est que la surconsommation. On peut la définir de deux manières notamment. Donc il y a une forme assez basique, c'est une consommation excessive qui excède les besoins réels de base. Par contre, si on décide d'utiliser cette définition, il est alors impératif de définir quels sont les besoins réels ou de base. Après, la surconsommation, on peut la voir sous l'angle des ressources. Donc, ces ressources qui forment l'entièreté des produits transformés et manufacturés pour les besoins humains, on rentre en surconsommation lorsque celle-ci excède la capacité de renouvellement de cette ressource ou la régénération du système d'où la ressource provient. Si la dite ressource vient à manquer ou à être épuisée, alors elle ne peut être remplacée et on oublie justement un besoin de base. La surconsommation, par contre, ne peut être analysée étudier sans prendre en compte la production en amont. Dans ce cas, elle entraîne à travers différentes étapes et actions un impact sur le vivant. Notre société occidentale, moderne, basée sur le modèle dominant de la croissance et du productivisme, fonctionne à partir de flux allant de l'extraction des ressources, leur transformation et les déchets qui en découlent, donc les pollutions. Le tout en utilisant des énergies fossiles. On retrouve donc sur n'importe quelle chaîne de production un impact sur le vivant. En amont, sur l'impact sur les territoires, les zones de vie, les zones humides, aquatiques, forestières, et j'en passe. On a pendant l'utilisation, avec tous les déplacements liés à l'activité humaine, les consommations de marchandises, la surconsommation de voyages, du tourisme, les activités professionnelles, les activités militaires, l'effet rebond dans les chauffages de bâtiments, les pollutions sonores, et bien sûr, en aval, où on a tout type de déchets qui viennent polluer les eaux, l'air, les sols et les organismes vivants, humains et non humains. On va vous donner juste un exemple assez concret. La mode, de manière générale, elle est dépendante donc en amont de l'agriculture intensive, donc d'engrais, de synthèse, ainsi que des intrants style pesticides, le tout qui va polluer justement l'écosystème et les milieux aquatiques à travers le lessivage des engrais et les pesticides sur la biodiversité. Les produits sont transportés par la suite sur des grands bateaux produisant une pollution sonore extrême, déséquilibrant les migrations d'animaux marins, pouvant même les pousser jusqu'au suicide. L'utilisation d'agents de teinture, donc pendant la transformation, provoque de nombreuses fuites de métaux lourds dans l'environnement. Et le textile, pendant l'utilisation, est responsable de un quart de la pollution des écosystèmes en microplastique. Pour terminer, si la consommation et la production sont comme Roméo dépendant de Juliette, inséparables, alors il est judicieux d'analyser si l'attribution des impacts environnementaux aux consommateurs est cohérente avec la perspective selon laquelle les consommateurs sont les moteurs ultimes de la production. Leur décision d'achat déclenche une série de transactions commerciales et d'activités de production. Ou sommes-nous dans une économie planifiée, structurée, poussée, comme peut le décrire des économistes comme John Kenneth Galbraith, celle-ci guidée par l'offre, nous poussant à consommer, le tout tiré par la planification des grandes technostructures, utilisant des techniques telles que la publicité et, si nécessaire, l'intégration verticale. Le tout laissant tout simplement le dernier contrôle pour nous, qui est tout simplement l'acte d'achat.
Alors, Renaud, parlons-en justement de la publicité. En quoi elle intervient dans cette consommation, cette surconsommation, et en quoi on en est impacté ?
Bah oui, on ne pouvait pas faire une formation sur la décroissance sans parler un peu de pub. Aujourd'hui, un petit chiffre, le budget mondial de la communication, c'est 1500 milliards de dollars et 530 milliards pour la publicité, soit en fait l'équivalent du budget français. On peut remarquer que la publicité s'infiltre en fait dans des espaces inattendus, en fait, afin de contourner nos systèmes naturels de défense anti-manipulation. On voit ça dans l'art, dans la décoration urbaine, dans les jeux vidéo, dans les applications mobiles, les films, le sport. Le discours publicitaire, en fait, il se positionne sur trois niveaux. Un premier niveau qui consiste à donner de l'information. Le deuxième niveau, c'est de persuader. Le troisième niveau, en fait, c'est de normaliser une culture de consommation. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a presque plus d'informations. Par exemple, à la télévision, 90% des messages ne contiennent plus d'informations, ni même de messages pour persuader, ni même le nom du produit ou de la marque.
Est-ce que c'est la demande des consommateurs qui a engendré la surproduction des biens et services, ou est-ce que c'est une démarche volontaire des producteurs, et notamment via la publicité, de créer une surconsommation pour écouler la surproduction ?
Les deux, évidemment. Les deux phénomènes s'entraînent et coopèrent. La publicité vise dans tous les cas à influencer les habitants à consommer, que le besoin s'arrête ou pas. Peu importe, c'est la raison d'être de la publicité. Aujourd'hui, notre système social, notre paix sociale, ça a été déjà dit plusieurs fois, nous apporte de la sécurité et la satisfaction de besoins essentiels ou pseudo-essentiels. C'est toute notre organisation sociale, humaine et économique aujourd'hui qui est basée sur le principe de la croissance. sans croissance, demain, c'est tout notre système social et économique qui s'effondre. Nous, en tant que modèle occidental, ne savons pas aujourd'hui, collectivement, comment faire autrement. C'est le récit qui est construit par des habitants et des habitantes et les décideurs de l'après-guerre. Ces personnes qui ont eu faim, qui ont eu peur, ces personnes qui ont peur aujourd'hui de la faim et qui ont peur de la guerre, ces personnes qui ont organisé le système social et donc économique de nos sociétés occidentales.
Je reviens sur la publicité, mais en quoi elle intervient dans ce système ?
En fait, la publicité est le moyen qui participe au développement de ce système. Ce système, il vise à nous faire penser que ce qui est accessoire, ou fut-il un jour, devient demain essentiel, indispensable, voire vital. Par exemple, la maison individuelle devient essentielle, la résidence secondaire, du moins pour certains, ainsi qu'une chambre unique par enfant, la voiture, puis les voitures remplies de gadgets, les voyages en avion, les téléphones, l'immédiateté d'un service. Et à peine avons-nous commencé à pouvoir jouir d'un objet ou d'un service que la publicité nous invite à rêver au suivant. Et si cela nous semble indispensable, c'est parce que nous sommes nombreux à avoir transféré sur l'objet ou le service payant sa capacité à satisfaire un besoin. Ce que j'appelle un besoin, eux, ces besoins, ils sont parfaitement réels. Et pour la plupart, sont ou peuvent être totalement satisfaits sans objet ou même service payant. Je pense à l'amour, je pense à la sécurité, à l'évolution, l'authenticité, la reconnaissance, l'appartenance, l'empathie par exemple. Le modèle a permis jusqu'à ce jour une paix sociale réelle et maintenant nous ne savons plus faire autrement ou imaginer autre chose. Dans ce sens, la publicité est seulement un outil certes extrêmement puissant, mais parmi d'autres pour la machine croissance.
Est-ce qu'on a les armes, nous, pour pouvoir résister face à cette organisation qui, à travers la pub, les obsolescences, nous pousse à consommer, à perpétuer ce flux de consommation où on est toujours plus impuissant, finalement, face à nos mécanismes cérébraux qui cherchent des récompenses ?
C'est une bonne question qui est assez complexe à répondre, donc je vais essayer de le faire pas trop compliqué. Donc là, ce que tu mets en avant, c'est notamment le mécanisme cérébral, donc cherchant cette sainte récompense qui est justement un petit peu la faiblesse face à ce monde de la publicité. Donc, poussons deux mots du lien entre cerveau et récompense. Donc, on va pas rentrer dans les détails parce que même moi, quand je vous le dis, j'ai du mal à le comprendre, mais en gros, les systèmes de récompense du cerveau, donc pour faire référence à ce qui était dit par un interlocuteur tout à l'heure sur le bug humain. Voilà, les systèmes de récompense du cerveau, donc qui sont complexes à expliquer, ont grosso modo modelé certaines parties de l'évolution de l'humanité, donc permettant la modification du comportement. Un exemple, comme l'apprentissage. Lorsqu'une action est récompensée, elle devient désormais plus facile à déclencher dès que l'animal se retrouve dans le même contexte, ce qui l'aide alors à l'apprentissage. Ces systèmes gère naturellement nos désirs, nos plaisirs et nos émotions, mais joue aussi un rôle central dans la mise en place de phénomènes de dépendance, comme les drogues. La récompense est donc un mécanisme qui a évolué pour aider à augmenter la capacité d'adaptation des animaux. Juste, on repart un petit peu en arrière. Historiquement, les comportements sociaux se sont basés sur la recherche de statut à travers la connaissance, l'éthique, la hiérarchie, le partage. Aujourd'hui, la recherche de statut se fait notamment via la compétition, justement, entre soi, en utilisant et en accumulant des ressources. Les systèmes de récompense dans le monde moderne passent souvent à travers l'utilisation de ressources non renouvelables qui, petit à petit, deviennent de plus en plus faciles grâce à beaucoup d'énergie. La publicité, elle, bien sûr, vient favoriser l'activation de ces systèmes de récompense via des achats compulsifs rapides et faciles. Mais face, justement, au dépassement de ces limites planétaires, comme on n'arrête pas d'en parler, il y a justement de plus en plus de recherches qui se font sur les potentiels liens entre la dégradation écologique, nos capacités à faire face justement à cette publicité, à cette obsolescence d'une manière cérébrale et les causes. Voilà, est-ce qu'il y a un lien entre le comportement humain directement d'une manière biologique et la dégradation de l'environnement. Donc, certains théorisent que nos comportements, par le biais de notre cerveau, est un des responsables de nos comportements destructeurs primitifs. Là, on va prendre un tout petit pas de recul et dire, voilà, certains scientifiques disent « attention, soyez prudents ». Il faut souligner que certaines théories relèvent encore de la théorie, de la recherche et voire du postulat, et non de la science. Il faut bien différencier la science et la recherche. Certains neuroscientifiques mettent en garde sur la tendance à associer une zone du cerveau à une ou plusieurs fonctions. C'est ce qui relève de ce qu'on appelle la neuromanie, qui doit beaucoup aux études faites grâce à l'imagerie médicale. Le cerveau étant d'une grande complexité, d'une grande hétérogénéité, il est encore difficile de s'approprier une zone à une fonction. Bien que cela a pu être fait à quelques occasions. Aussi, avant de courir raconter beaucoup de personnes. Nous avons la réponse à la question de notre responsabilité face aux crises écologiques. Prenons le temps de nous rappeler que devant des choses d'une grande complexité, il faut toujours prendre du recul devant tout affirmer sans et en trouver la raison. Et surtout, cela révèle de la simplification si l'on n'intègre pas les facteurs sociaux historiques. Je termine juste par dire que une question que je pense reste absolument légitime quand on étudie justement ce système de récompense du cerveau, c'est: a-t-on vraiment besoin de comprendre le système du cerveau pour réaliser pourquoi nos modes de production et donc de surconsommation ont à la fois un effet délétère sur la nature ou à l'inverse peut donner des comportements vertueux en regard du respect du vivant?
En quoi notre mode de civilisation ne favorise pas plus l'épanouissement ou plus simplement ne fait pas le bonheur?
En fait, notre mode de civilisation actuel a répondu et répond encore parfois à de nombreux besoins. Au nom de la science et de l'efficacité, nous avons pu développer des compétences, une efficacité, une stratégie et la compétition. Et dans l'organisation dominante actuelle, chacun agit pour sa propre prospérité. Dans ce modèle, le monde est un vaste terrain de jeu rempli d'opportunités. Je m'exprime au jeu pour obtenir la satisfaction de mes besoins individuels. Mes échanges sont faits de contrats, de partenariats, d'intérêts mutuels. Le suffrage universel comme notre système politique sont à l'image de ce mode de fonctionnement. La majorité des organisations et entreprises fonctionnent selon ce modèle. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce modèle de civilisation a été précédé dans le passé par d'autres fonctionnements de société qui peuvent d'ailleurs subsister de façon marginale, plus ou moins mesquée selon les pays, les organisations et les familles. Par exemple, avant, nous avons connu un système normatif pyramidal d'obéissance à la loi de l'univers, à des règles, à une hiérarchie, à une vision absolue du bien et du mal, et où chaque chose a une place prédéfinie. Ce mode de fonctionnement précédent existe et subsiste encore dans certaines organisations connues de nous, comme par exemple l'éducation nationale ou certaines organisations religieuses. Et encore avant, vers 10 000 ans en arrière, nous étions dans des systèmes dominés par la puissance, la force, la conquête, l'affirmation de soi, le courage, la loi du plus fort. Il reste encore parfois des organisations de ce type dans certains gangs, peut-être dans des pays avec des spots. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois, chaque type d'organisation a permis de répondre à des besoins d'une majorité des hommes et des femmes à ce moment-là. Et chaque évolution dans la façon de s'organiser était une façon de répondre à de nouveaux besoins humains. C'était pour répondre à des besoins sociétaux en évolution. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Certaines mentalités évoluent. En fait, d'autres besoins apparaissent, comme en particulier une vision holistique du vivant et une vision globale du passé et de l'avenir. Et c'est ainsi que le mode de fonctionnement actuel de certaines de nos organisations ne répond plus à de nouvelles formes d'épanouissement qui sont recherchées par certaines personnes. Il se trouve que ces personnes sont de plus en plus nombreuses. En fait, il y a eu des transformations dans le passé, des évolutions de société qui répondaient à chaque fois à de nouveaux besoins. C'est ce qui se passe en ce moment. Aujourd'hui, ces nouvelles personnes, enfin ces personnes existantes, nous en faisons partie sans doute, souhaitent être respectées pour ce qu'elles sont et ce qu'elles ressentent. Ces personnes sont prêtes à un certain sacrifice d'elles-mêmes à l'instant afin d'obtenir une plus grande harmonie avec les autres. Nous sommes sans doute dans la recherche d'une plus grande forme de consensus, de bien-être spirituel, d'espace de gratitude et de célébration. Nous aimons sans doute de plus en plus nombreux aimer soigner nos besoins d'empathie, de coopération, d'harmonie, d'intériorité et d'intégrité. Dans ce sens, la majorité des structures et organisations actuelles ne répondent plus à l'épanouissement attendu de cette partie croissante de la population. Et cela semble assez naturellement vrai en particulier pour les plus jeunes générations. Ceci expliquant les phénomènes de désintérêt d'une partie de la jeunesse pour des structures hiérarchiques existantes ou encore la recherche de jobs ayant du sens. Ou encore ces personnes qui privilégient la famille au travail. Et cela se constate aussi dans des taux d'abstention aux élections, car le vote, tel qu'il existe actuellement, ne répond plus à ses besoins. Et nous constatons donc d'une part, des façons d'être et de faire qui deviennent obsolètes et en même temps qui restent majoritaires, même si elles sont vieillissantes. Et nous constatons d'autre part d'autres façons d'être et de faire ensemble qui se cherchent encore. Nous sommes dans la recherche, qui sont minoritaires. Elles intègrent les paradoxes, elles ont une approche systémique, une souplesse relationnelle et de la flexibilité et de la fluidité. C'est un modèle qui s'appelle la spirale dynamique. Merci.
Merci Renaud, merci Théophile. Alors finalement, pour lancer ce débat, là, on se serait collectivement enfermé dans un imaginaire oppressif qui crée des besoins superflus qui tend à nous asservir à un modèle de production et de consommation qui fait du PIB l'étendard et notre principal objectif. Alors chacun et chacune peut le ressentir. Une bascule aujourd'hui doit s'opérer pour qu'on puisse reprendre le contrôle. Est-ce que finalement la décroissance, et c'est là qu'on peut ouvrir le débat tous ensemble, est-ce que la décroissance ne serait-elle pas la contre-culture au modèle dominant en place ?